grâce et la paix de Jésus-Christ soient sur nous. Nous sommes là pour lui donner gloire et honneur, et nous allons le faire à travers sa parole. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe 53, le verset 3. Vous savez que le chapitre 53, c'est la prophétie qu'il a eue Ésaïe 700 ans avant Jésus-Christ, de ce qui arriverait à la croix. Il a tout vu. Mais j'ai pris ce verset 3, car c'est de là que je vais prendre ce verset-là comme pour le message. Voilà ce qu'il dit, ce message. Il est méprisé et rejeté des hommes, un homme de douleur et des larmes, sachant ce que la souffrance. Et nous avons comme caché nos visages devant lui. Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Bien sûr, ce verset il parle d'une seule et unique personne, c'est Jésus-Christ. Car c'est lui qui a été méprisé, rejeté des hommes. Il a été un homme des douleurs, des larmes. Des larmes. On l'a vu ce matin, hein, l'humanité de Jésus-Christ, en tant qu'homme, il a pleuré. Il a versé des larmes. Pourquoi ? Parce que c'est un homme des souffrances. Personne n'a souffert ce que Jésus-Christ il a souffert. Pourquoi il a souffert ces choses-là ? Et nous avons caché nos visages devant lui. Nous l'avons dédaigné. Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Combien de gens aujourd'hui, on leur parle de Jésus et ils te disent qui c'est lui. Donc le message de ce matin, c'est les larmes que Jésus il a versées. Car Jésus, en tant qu'homme, a pleuré. Dieu pleure même à ce moment même, en regardant tout ce qui se passe dans ce monde, en voyant les hommes qui ne veulent pas de ce sacrifice qu'il a donné, qu'il a fait de lui-même, qui rejette cette grâce. Dieu pleure. Mais Jésus, lorsqu'il était ici-bas, il a pleuré. Et ces larmes de Jésus, c'est pour nous montrer sa compassion envers chacun de nous. Sa compassion. Et la compassion, vous savez, c'est une vertu chrétienne. C'est une vertu chrétienne que Jésus-Christ il a manifestée dans ce monde dur qui était l'époque romaine. Et à cause de Jésus, par cette compassion qu'il a manifestée, il nous demande de faire la même chose. Soyez saints. Jusqu'à votre Père et Saint, car je suis saint. Toutes les choses que Jésus a manifestées, nous devons les manifester. Oui, nous allons pleurer aussi. Mais Jésus, il est passé avant. Et donc, il est là pour nous soutenir. Et on va voir les larmes que Jésus il a versées. Dans trois endroits, dans la parole, il nous est dit que Jésus a pleuré. Le premier endroit, il a pleuré sous la tombe de Lazare. Attention à la coupe. Sous la tombe de Lazare. Vous connaissez tous cette histoire qui est relatée dans Jean 13. Non, dans Jean 11, pardon. Jean 11. Il y avait Lazare qui était l'ami de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il était ami de la famille de Lazare. Marie, Marthe et Lazare. Alors à certains moments, il y a eu quelqu'un qui annonçait à Jésus, viens vite, ton ami Lazare, il est mourant. Et Jésus, il n'est pas parti tout de suite, il a attendu 4 jours. Et le quatrième jour, il a dit à ses apôtres, à ses disciples, allons rendre visite à Lazare. Après 4 jours, Lazare, il était décédé. Et lorsqu'il est arrivé, Marthe, il a été à sa rencontre et il a dit, mais Lazare est mort. Et il a dit, amenez-moi où vous l'avez mis. Et là, ils étaient tout autour. Marthe et Lazare, Martha et Marie, ils étaient en train de pleurer. Et Jésus, en voyant ces deux sœurs et tous les gens autour pleurer, il nous a dit le verset le plus court de la Bible, qu'il nous dit « Jésus pleura ». Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que dans le grec, ce mot « pleura », ça signifie que Jésus a craqué. Jésus a craqué. Il pleure, il allait. Il a commencé à pleurer et lorsque il a commencé à parler, voilà pourquoi il a dit en pleurant, il a dit où vous l'avez mis en pleurant. Voilà pourquoi les hommes en le voyant, ils ont dit voyez combien il aimait. Jésus, il a pleuré. Pourquoi? On se demande pourquoi est-ce qu'il a pleuré? Parce que Jésus, il voyait les ravages qui fait cette mort dans ce monde. Pourquoi est-ce qu'il y a la mort? Parce qu'il y a eu le péché. Et la Bible l'éclaire et nous dit que nous devons tous mourir une fois. Et Jésus, en voyant tous ces ravages, il a pleuré. Il a pris sur lui la compassion de ces gens. Jésus, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Parce que Paul, il nous dit dans Romains, réjouissez-vous avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ça, c'est encore une caractéristique chrétienne, la compassion. On a notre sœur qui a perdu son frère. Nous devons pleurer avec elle. Car nous devons être unis en communion. Et ici, le Seigneur, c'est exactement ce qu'il a fait. Il voyait tout autour des gens qui pleuraient. Alors, il a pleuré pour leur donner cette compassion, ce partage. Et combien de gens aujourd'hui, dans nos propres familles, il y a des pleurs. Ou pour des divorces, ou pour la perte de quelqu'un. Ou parce que son enfant, sa fille, il dévie dans le chemin qu'on lui a pris. Alors, il y a des pleurs. Mais le Seigneur, il est là, il est passé par toutes ces choses-là. Voilà pourquoi il a pleuré, le Seigneur. Il a pris sur lui tous nos tourments, tous nos soucis. Si seulement nous puissions comprendre cela, que le Seigneur, il est là, il partage nos douleurs, nos peines. Et il nous dit une seule chose, déchargez-vous sur moi. Pourquoi? Car lui, il a souffert toutes ces choses-là, et encore plus que ça. Donc, il est capable de nous donner l'aide dont nous avons besoin. Et le Seigneur, il est là. Et lorsque nous tombons dans les péchés, le Seigneur pleure. Parce que vous savez, Jésus dans le ciel, on l'a vu ce matin, il est notre souverain sacrificateur. Lorsque les choses ne vont pas dans notre propre vie, il prie pour chacun de nous. Il intervient. À Pierre, il lui a dit, j'ai prié pour toi. Et le Seigneur, lorsque nous passons par des moments difficiles, il est là. Même si nous nous disons, ah, le Seigneur m'a laissé tout seul. Le Seigneur est là. Il y a quelqu'un qui a fait un rêve. Je vais vous le lire. Peut-être c'est l'histoire que vous connaissez, mais c'est approprié pour cela, que le Seigneur est là. Il a fait un rêve. Voilà ce qu'il dit. J'ai marché le long de la plage avec mon Seigneur. Sur le ciel sombre s'illuminaient des scènes de ma vie. Pour chaque scène, j'ai remarqué deux empreintes de pas dans les sables. L'une était les miens et l'autre celui de mon Seigneur. Après que la dernière scène de ma vie se soit présenté devant moi, je regardai en arrière et j'ai vu les empreintes des pas dans le sable. J'ai vu que de nombreuses fois, le long du chemin de ma vie, particulièrement aux temps les plus difficiles et les plus tristes, il n'y avait qu'une seule empreinte des pas. Ceci m'a vraiment troublé. Et j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, tu m'as dit une fois que si j'ai décidé de te suivre, tu marcherais avec moi tout le long du chemin. Mais j'ai remarqué que pendant les moments les plus tristes et les plus difficiles de ma vie, il n'y avait qu'une seule empreinte de pas. Je ne comprends pas pourquoi, Seigneur, quand j'ai eu le plus besoin de toi, tu m'as laissé. » Il m'a dit doucement, « Mon précieux enfant, je t'aime et je ne te laisserai jamais, 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 pendant une seule fois de tes épreuves et difficultés. Mais quand tu voyais qu'une seule empreinte de pas, c'est alors que je t'ai porté dans mes bras. » Jésus a pleuré. Chaque fois que nous sommes dans les difficultés et que nous ne lui faisons pas confiance, il a pleuré. Comme ici, il a pleuré devant la tombe de Lazare. Il a dit, « Montrez-moi où est-ce qu'il est. » Il a dit, « Mais Seigneur, ça fait 4 jours déjà. Ça doit sentir. » Il a dit, « Enlevez la pierre. » Il a dit, « Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez. » C'est ça que le Seigneur il nous dit lorsqu'il a pleuré. C'est un enseignement pour chacun de nous. Lorsqu'on a des tristesses, des souffrances, des peines dans notre vie, lèvons les yeux vers le Seigneur, car il pleure avec nous. Nous ne sommes jamais seuls, car c'est une promesse. On l'a vu ce matin lorsqu'on a parlé de l'humanité de Jésus, qui est Dieu. Il est immuable. Lorsqu'il fait une promesse, il ne la change pas. Ne dites pas, « Ah, je suis tout seul !» Non, tu n'es pas tout seul. Tu es peut-être dans la solitude, mais tu n'es pas tout seul. Le Seigneur est là. Il ne demande qu'une seule chose, de lui faire confiance et de croire que nous n'avons rien à craindre. C'est un peu comme cet enfant-là, que la mère elle lui dit, « Chérie, descends à la cave et ramène-moi la boîte de pommes, des tomates qu'il est là. » Elle a dit, « Mais maman, il fait nuit là-bas, j'ai peur. » Il a dit, « Mon chéri, il y a Jésus. » Il y a Jésus en bas à la cave. Il descend, il ouvre la porte et dit, « Jésus, passe-moi la boîte de tomates. » Voilà, c'est ça que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. Que nous ne sommes pas seuls. Et Jésus, il a pleuré. La deuxième fois où il a pleuré, c'est devant la ville de Jérusalem. Je vais vous lire dans Luc 19, parce que c'est quelque chose de bien ce qu'il nous dit là. Hein? Et alors c'est Luc 19, 41-44, regardez avec moi. Jésus, il a pleuré. Hein? 41. Ah oui. Voilà, comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et il dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité Et c'est marqué, en regardant Jérusalem, le Seigneur, il a pleuré. Il a versé des larmes sur la cité de Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'il a pleuré? Parce que en la regardant, il a vu l'obstination de cette ville, que malgré sa visitation, il ne s'est pas tourné vers le Seigneur. Et le Seigneur, il a pleuré parce qu'il a vu cette ville, dans les années plus loin, il a vu cette ville entourée par les armées romaines, cette ville détruite, le temple de Dieu détruite, et il a pleuré. Voilà pourquoi il dit, si seulement tu aurais fait attention à la visitation que je t'ai faite. Et il a pleuré. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans la ville d'Argenteuil. Et le Seigneur, il continue à pleurer pour chaque ville dans laquelle nous vivons. Parce qu'il y a des gens qui encore ne connaissent pas le Seigneur. Et le Seigneur, il pleure. Peut-être il pleure parce qu'il voit que ses enfants, ils ne font rien pour pouvoir apporter la bonne nouvelle à tous ces gens. Bien sûr, nous, nous sommes sauvés. Parce que le Seigneur, il nous a fait grâce. Il nous a menés au pied de cette croix, où nous avons pu nous repentir de nos péchés et où nous avons reçu cette bonne part. Mais il y a tant de gens tout autour de nous qui encore ne connaissent pas. Il y a tant de gens qui sont autour de nous et ils ne sont pas dans la vérité. Et nous, nous avons entre nos mains la Bible qui est la vérité. Voilà pourquoi Pierre il nous dit, croissez dans la connaissance de Jésus-Christ. Nous devons connaître Jésus-Christ. Nous devons connaître la doctrine de Jésus-Christ. Ce qu'il nous a enseigné. Pour faire quoi? Pour que nous puissions nous glorifier. Ah, je connais, voilà, je connais. Non, pour que nous puissions l'apporter à ceux qui encore ne connaissent pas. Et je suis sûr que lorsque quelqu'un meurt sans qu'il ait connu le Seigneur Jésus, il pleure. Il continue à pleurer sur les villes dans lesquelles ses enfants ils vivent et qui ne font rien. Voilà pourquoi on est appelé à travailler. Comme il a dit les frères tout à l'heure, peut-être qu'on va la chanter, ce cantique. Travaillons et luttons. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Voilà pourquoi il pleure. Il a pleuré sur Jérusalem parce qu'elle a eu cette occasion de croire dans le Messie et il n'a pas pris. Encore une fois, le Seigneur, il pleure lorsque nous ne faisons pas notre service, lorsque nous ne témoignons pas, lorsque nous n'évangélisons pas. Nous avons été sauvés pour servir. Le Seigneur, il ne nous a pas sauvés pour nous éviter l'enfer. Mais il nous a dit dans Jean 14, comme je vous ai dit la semaine dernière, il nous a sauvés afin que nous portions du fruit. Comment est-ce qu'on porte du fruit? Lorsque quelqu'un s'est converti, auquel nous avons témoigné, ça c'est les fruits. Nous avons été sauvés pour que le Seigneur, notre Dieu, il puisse en retirer des fruits. Et le Seigneur, il pleure constamment. Lorsqu'il a été mené sur la croix, à un certain moment, il est tombé. Cette histoire, il est dans Luc 23, mais on ne va pas le lire. Lorsqu'il est tombé, il y a eu des femmes qui se sont approchées de lui et qu'il pleurait. Et Jésus leur a dit, « Femmes, ne pleurez pas sur mon sort, mais prenez sur votre propre sort, car si vous ne vous convertissez pas, moi, je suis en paix avec mon Dieu et mon Père. Pleurez sur vous-même. On appelle ça les larmes de crocodile, n'est-ce pas? Lorsqu'on ne ressent pas vraiment la signification de cela. Et Jésus, il leur a dit, tout le monde, il était dans la douleur, dans les pleurs. Mais quelques jours avant, ou quelques heures avant, lorsque Pilate a dit, que voulez-vous que je fasse de Jésus? Crucifie-le, crucifie-le. C'est ça. Qu'est-ce que c'est qui a crucifié Jésus? C'est nos péchés. Une église, à un certain moment, il voulait encore amener à la mort Israël parce qu'elle disait qu'ils sont des déicides. Ils ont tué leur Dieu, le Messie, Jésus-Christ, les Juifs, et c'est les Juifs qui l'ont tué. Mais ce n'est pas les Juifs qui ont tué Jésus. C'est nous-mêmes avec nos péchés. C'est nos péchés qui a porté Jésus sur la croix. Et Jésus, en regardant toute cette misère dans chaque ville, il pleure. Parce qu'il dit, à quoi bon les sacrifices que j'ai faits? J'ai tout fait pour que l'humanité puisse être sauvée. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils m'oublient. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, plus vous parlez du Seigneur Jésus, et plus vous êtes mal vu. Si vous êtes chrétien, si vous fréquentez des gens qui ne le sont pas, et en vous connaissant, ils vous diront, écoute, on est bien avec toi, mais ne nous parle pas de Jésus-Christ. On a la casquette. On ne veut rien entendre. On veut vivre notre vie, mais cette vie que le monde veut vivre mène à la perdition. Mène à la perdition. Voilà pourquoi il pleure. Troisièmement, que Jésus a pleuré, c'est dans le jardin de Gethsémané. Gethsémané. Et dans Hébreux 5, 7, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, Jésus qui durant les jours de sa chair, lorsqu'il offrit avec des grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été entendu en ce qu'il craignait. Jésus, il a pleuré dans l'obscurité de ses jardins. Hein? Dans l'obscurité. Il a versé son âme envers Dieu. Et si vous lisez ce verset, il dit que qui durant les jours de sa chair, lorsqu'il offrit avec des grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver, qui c'est qui pouvait les sauver? C'est Dieu. Il priait Dieu qui pouvait les sauver de la mort. Mais tout de suite après, il dit, et ayant été entendu en ce qu'il craignait. Est-ce qu'il a été exaucé ou pas? Parce qu'il demandait de le délivrer de la mort. Et il nous a dit, et ayant été entendu. Vous savez de quoi il avait peur, Jésus? Jésus, il avait peur que lorsqu'il savait qu'il devait venir le prendre, il avait peur que ceux qui venaient le prendre, ils le tuent là. Voilà pourquoi il a crié envers Dieu, son Père, avec des larmes et des grands cris, qu'il puisse les sauver de cela. Et il nous a dit, et ayant été entendu, c'est-à-dire qu'il a été exaucé de ce qu'il craignait. Qu'est-ce qui serait arrivé si Jésus, il aurait été tué au Gethsémané? Il n'aurait pas accompli la croix. Il était en jeu les saluts de l'humanité. Voilà pourquoi il a pleuré. Et encore, il a pleuré avec des grands cris. Des grands cris. Mais il a été exaucé. Les péchés du monde à ce moment-là, ils étaient placés sur Jésus. Et il avait cette peur que les gens qui viennent le chercher, ils puissent le tuer là et qu'ils ne puissent pas aller à la croix pour accomplir. C'est pourquoi il était venu ici-bas. Voilà pourquoi, pour deux fois, il s'est éloigné. Et il a continué à prier. Il faisait quoi, ses disciples? Il dormait. L'amour de Jésus-Christ, il l'empêchait de dormir. Parce que sûrement qu'il était plus fatigué que les apôtres. Mais il avait en lui cet amour de Dieu. Il savait qu'il était venu pour faire quelque chose et il savait qu'il devait l'accomplir. Mais il avait peur. Il avait peur que les gens le tuent. Et il a versé des larmes Verset 42, Luc 22, 40, il dit, étant en agonie, il priait plus instamment. Qui de nous a déjà été en agonie à prier? Personne. Personne. Mais lui, il ressentait tellement ces choses-là qu'il criait. Il nous a dit, il criait. Les disciples, ils n'étaient pas loin. Pourtant, ils dormaient bien tranquillement. Et Jésus, il criait. Il criait. Alors, ayant été entendu et exaucé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et il nous a dit, un ange lui apparut du ciel, le fortifiant. Et étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur était comme des grumeaux de sang coulant sur son front. Le sang. Ben, nous prions, nous, hein. Mais nous ne souons pas. Hein. Lui, Jésus, c'était le sang qui coulait. Parce qu'il ressentait ces choses-là. Il pleurait. Parce qu'il voulait aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Pour faire quoi? Pour délivrer cette humanité de cette lourde tâche que le péché. Et il l'a fait. Parce qu'il est mort. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Donc, vous voyez combien Jésus, il nous aime. Regardez les versets des larmes. Imaginez-vous de voir Jésus pleurer. Pour qui il pleure? Mais pour vous, pour moi. Et s'il le fait, c'est parce qu'il nous aime. Et vous savez, si les larmes de Jésus ne nous touchent pas, qu'est-ce que c'est qui peut nous toucher? Il a donné sa vie pour nous, pour moi. Jésus, il a souffert tout ce qu'il avait souffert à ma place. Car sous la croix, ce n'est pas la place à Jésus. C'était notre place. Car Jésus, il n'avait fait à rien pour mériter cela. Mais il a été comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il s'est tué. Pourquoi? Parce qu'il devait accomplir. Car c'est grâce à sa mort que nous pouvons aujourd'hui avoir la vie éternelle. C'est quelque chose de fantastique que nous devons avoir. Donc, et vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Benjamin Medom. Non, il n'est pas tellement connu. C'est un petit pasteur baptiste. Il a écrit un merveilleux cantique qui s'appelle « Christ n'a-t-il pas pleuré pour les pécheurs ?» Voilà ce qu'il dit ce cantique. « Christ n'a-t-il pas pleuré pour les pécheurs ? Nos visages ne seraient pas mouillés de larmes. Que les flots du chagrin de nos fautes s'écoulent de nos yeux et pleurent. Les fils de Dieu versant des larmes, les anges l'ont contemplé. Sois étonné, ô mon âme. Il a versé ses larmes pour moi, pour toi. Il a pleuré, que nous puissions pleurer. Chaque péché demande une larme. Nous devons pleurer sur nos péchés. Et en regardant les gens tout autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est ce que le Seigneur il nous demande lorsqu'il a vu Jérusalem. Il a pleuré. Combien de fois avons-nous pleuré devant les gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Touchés par cette misère. Car tous ces gens qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, ils sont condamnés à la perdition. Perdition éternelle, pas à la perdition comme quelques-uns y prêchent, passer un certain temps dans la perdition au purgatoire et ensuite monter au paradis. Non, c'est la mort éternelle. Car une fois qu'on est mort, il vient le jugement. Il vient le jugement. C'est aujourd'hui que nous sommes vivants que nous devons prendre les bonnes décisions. Sachez, il n'y a pas une autre, comme on dit, chance. Il y a beaucoup qui le prêchent, cela. qu'après la mort, il y aura une chance. Non, c'est terminé. La Bible l'est claire. Après, il est réservé à tous de mourir une fois. Après quoi, il vient les jugements. Il n'est pas dit après quoi, il vient une nouvelle chance de se convertir ou je ne sais pas quoi. Non, il dit les jugements. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devons prendre la décision, pour ou contre Dieu. Et toutes ces larmes, encore une fois, Jésus, à chaque fois, il les a versées en regardant la misère de ce monde. Notre propre misère. Que le Seigneur nous aide. En voyant Jésus pleurer, en voyant Jésus sur la croix, demandons-nous, est-ce que je pleure sur mon péché? Comme Jésus, il a pleuré sur mes péchés. Et à chacun de nous, si encore vous ne l'avez pas fait, de vous tourner vers le Seigneur et de lui demander pardon pour tous vos péchés. Car encore une fois, si on demande pardon, il va nous pardonner. Il a dit lui-même, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Déchargez-vous sur moi. » C'est ce que le Seigneur, il attend de chacun de nous. Et si vous l'avez déjà, vous l'avez fait, de vous tourner vers le Seigneur, continuons à pleurer pour tous ceux qui nous entourent. Que le Seigneur puisse nous utiliser et que nous puissions pas nous réjouir à voir les gens qui encore ne connaissent pas le Seigneur, mais de pleurer pour eux, de faire tout ce que nous devons faire pour qu'ils puissent eux aussi s'approcher de Jésus-Christ et avoir la vie éternelle. Voilà ce que ça signifie les larmes de Jésus, les larmes pleines de compassion pour chacun de nous. Car il nous a dit que Dieu, c'est le Dieu de la compassion. C'est celui qui a pitié de nos erreurs, de nos fautes, mais qu'il est prêt à nous pardonner. Voilà, que chacun de nous, il puisse regarder au plus profond de son cœur. Car si on regarde, on voit, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je me suis tourné vers Jésus, vers la croix? Je lui demandais pardon. Est-ce que je suis sauvé? Chacun de nous, il essaie oui ou non. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Je ne vous demande pas de vous lever, car ça ne sert à rien de voir quelqu'un se lever, car après, il y a la vie, il y a la suite. On peut se lever en écoutant un message qui t'a touché, mais en sortant, on continue à faire la vie qu'on avait auparavant. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur. C'est ce qui m'importe à moi. C'est que si vous le faites, vous devez le faire avec le Seigneur, pas devant un pasteur, un frère et sœur. Il faut le faire devant le Seigneur, car Dieu connaît le cœur. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont accepté le Seigneur, et je ne sais pas qui c'est, mais Dieu le sait. Et il mène une vie en rapport à cette vie. Mais comme nous allons prendre la Sainte Cène, hein, qui sait, pour qui c'est la Sainte Cène? C'est pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui se sont fait baptiser. Donc, lorsque quelqu'un, s'il va être obéissant au Seigneur, il s'est fait baptiser. Automatiquement, il doit se faire connaître. Car le baptême, c'est un témoignage, comme il a quitté le monde, ce monde, pour se tourner vers le Seigneur. On va prendre 2 ou 3 minutes que chacun de vous, chacun de nous, il puisse regarder au plus profond de notre cœur. Et si encore vous n'avez pas le Seigneur, tournez-vous vers lui. Car Paul nous le dit, les temps sont mauvais. Nous ne savons pas si en sortant d'ici, nous serons encore vivants. Et Dieu il nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La seule question qu'il faut que nous nous posions, c'est, suis-je prêt à rencontrer Dieu? Donc, prenons quelques minutes avant de prendre la Sainte Cène, et à chacun de nous, de prendre cette résolution et de s'ouvrir au Seigneur, de lui dire de venir dans notre vie et de nous sauver. Amen. Prenons quelques minutes.